Nous proclamons la première lecture de ce jeudi, de ce quatrième dimanche de ce temps, de quatrième semaine de ce temps de carême. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 32. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, il lui dit encore, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, ton Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, « C'est par méchanceté qui les a fait sortir. Ils voulaient les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens donc de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout le pays, ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Alors, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À Horeb, ils fabriquaient un veau. Ils adorent un objet à métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays des Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Acclamation. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous lisons au chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est véridique. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean, le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. J'ai été la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui des gens. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'avance d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la paix dans votre cœur, la paix dans votre maison, la paix là où vous êtes confinés actuellement dans l'isolement à cause des restrictions qui pèsent sur toute la population. Suite à l'explosion de cette maladie, cette pandémie coronavirus, dans votre maison, la parole de Dieu vient jusqu'à vous. Dieu lui-même vient pour vous apporter la paix. Et je me fais le messager de cette parole, le messager de cette paix. J'offre cette Eucharistie pour vous. J'offre cette Eucharistie pour que le Seigneur vous localise chez vous. Là où vous êtes, pour que le Seigneur vous apporte la paix dont nous avons besoin en ce moment où la panique, où la peur a envahi nos cœurs et nos vies. Dans la première lecture, le livre de l'Exode que nous venons de lire, je voulais faire un commentaire là-dessus parce que je le trouve très très intéressant. Voyez-vous, Dieu a aimé son peuple et à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, il s'est souvenu de cette promesse et de son alliance avec Abraham, et alors il a décidé d'aller libérer son peuple qui était esclave en Égypte depuis plus de 400 ans. Et voici, Dieu lui-même prend l'initiative de libérer ce peuple parce qu'il a entendu leurs cris, il a écouté, il a entendu leurs cris et il a vu leur misère. Et voilà que Dieu, après avoir envoyé 10 plaies, le qu'on appelle le plaie d'Égypte, 10 fléaux pour frapper l'Égypte. Quand Pharaon a vu ces 10 fléaux, à la fin, il a libéré le peuple de Dieu. Il a laissé partir le peuple de Dieu. Et voici maintenant, dans le désert, le peuple doit apprendre à ne compter que sur Dieu seul. Ce peuple qui était au service de Pharaon, ce peuple qui avait perdu presque le contact et la connexion avec son Dieu, devait réapprendre à faire confiance en Dieu. Et ce n'était pas facile parce que le chemin du désert avait beaucoup d'embûches. Alors, Moïse devait continuellement être en communion avec Dieu. De temps en temps, il s'est retiré pour aller prier. Et là, le Seigneur lui avait demandé de lui parler. Il est allé à la montagne où il est resté pendant 40 jours en train de prier en faveur du peuple de Dieu. Pendant qu'il était en train de prier, la parole de Dieu nous dit, le peuple se fabriquait d'autres dieux. Il se fabriquait un veau en métal pour l'adorer. Et il a commencé à lui offrir le sacrifice exactement comme il le faisait avec Dieu. Et ça a provoqué la fureur de Dieu. Quel drame! Imaginez-vous un peu le Dieu très haut qui mérite toute gloire et toute adoration, être confondu, quel blasphème, avec un veau fabriqué par la main des hommes. L'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas loin de nous. Les hommes aiment des choses palpables parce qu'ils ne sont pas capables d'entrer dans la dimension spirituelle. Ils aiment tout le temps voir quelque chose dans le main. Ils aiment tout le temps voir quelque chose de palpable, de physique. On dirait que ça leur donne l'assurance. Quand le physique ne nous amène pas à aller plus loin que le physique, alors nous sommes dans l'idolâtrie. Un cierge que nous allumons, c'est du physique. Si ça ne reste qu'un cierge allumé, ça ne peut pas apporter le salut. Nous pouvons tomber dans l'idolâtrie. Nous avons besoin d'aller, de retrouver la communion avec le Dieu qui est la lumière, le Dieu qui apporte la lumière. La lumière de Jean-Baptiste, nous avons entendu dans l'Évangile, était pour un moment. Le cierge que nous allumons, c'est pour un moment. Mais Jésus dit, vous devez jouir de moi, parce que moi je suis pour l'éternité. Je vous donne la vie éternelle, ma lumière est éternelle. Nous devons jouir de lui. Le peuple n'a pas compris cela. Il a voulu quelque chose de visible. Alors il s'est fabriqué son veau d'or et l'a appelé Dieu. Quel blasphème de confondre le Dieu Tout-Puissant et de le mettre en équivalence avec un objet fabriqué de la main des hommes. C'est cela qui a provoqué la colère de Dieu. Et chaque fois que nous provoquons la colère de Dieu, la fureur de Dieu, il frappe. Depuis toujours, quand le péché des humains devient intense dans le monde, nous avons vu dans la Bible, déjà, après nos premiers parents, Dieu a frappé fort. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Nous avons vu à un moment donné l'homme, son cœur était vraiment détourné de Dieu et le mal commençait à envahir tellement le cœur des humains que Dieu a pris la décision d'éliminer toute une race. C'est alors qu'est intervenu ce qu'on raconte dans la Bible, les déluges à l'époque de Noé. Et à tout moment, c'est la même chose. Nous avons vu à Sodome et Gomorre quand vraiment le mal a atteint un paroxysme, vraiment un niveau très élevé. Dieu a envoyé le soufre du ciel qui a brûlé toute la ville de Sodome. Dieu est intervenu pour détruire. Quand le mal envahit le monde, Dieu laisse, évidemment, il intervient, il laisse sa fureur détruire le monde. Nous devons faire attention avec le mal qui envahit notre monde aujourd'hui. Il y a tellement de péchés qui envahissent notre monde aujourd'hui. Nous avons atteint un niveau de permissivité, vraiment dans notre vie, dans nos maisons, dans nos responsabilités, dans l'Église, dans le monde, que la fureur de Dieu est à la porte. Et ce que nous sommes en train de voir, ce n'est que la main des hommes, mais Dieu peut se servir de la main des hommes, justement pour frapper aussi l'humanité. Nous avons peur des microbes qui n'est même pas visible, imaginez-vous. Alors, nous devons faire attention chaque fois que nous provoquons Dieu et que sa fureur se lève, il peut frapper. Mais la parole de Dieu nous montre le cœur de Moïse par rapport à cela. Je vous ai dit, Moïse était en train de prier pendant que le peuple se fabriquait un veau d'or. Il aurait pu dire à Dieu, « Détruis ce peuple, il exagère. » Alors que je suis en train de prier pour lui, il ne comprend pas, détruis-le. Regardez l'attitude de Jésus. Il porte la souffrance du peuple comme un fardeau personnel. il commence à intercéder auprès de Dieu pour ce peuple, un peuple pécheur, un peuple qui était condamnable. Moïse porte le fardeau, il en fait une intercession. Moïse commence à intercéder. Regarde quand Dieu en fureur, il dit à Moïse, ton peuple. Mais Dieu, Moïse, dans son intercession, il rappelle à Dieu que c'est son peuple. Seigneur, comment vas-tu détruire ton peuple? Comment vas-tu donner raison à des païens pour dire que voici, Dieu n'écoute même pas, il n'exauce même pas leurs prières? L'attitude de Moïse, porter le fardeau de notre communauté, porter le fardeau du monde, le porter dans la prière d'intercession, c'est ce que Dieu attend de nous en ce temps de la peur, ce temps où nous sommes confinés dans nos maisons. C'est dommage. Quand je prends le marche la nuit, je vois tout le temps les écrans dans les maisons allumés. Les gens sont devant leurs écrans, les longueurs de journée. Les gens prennent ce temps comme un temps de vacances. Les gens prennent ce temps comme un temps de divertissement. Les gens prennent ce temps comme un temps où ils s'éloignent davantage de la présence de Dieu, comme si on leur a donné congé, comme si l'Église leur a donné congé. Ce n'est pas un temps où l'Église nous donne congé, au contraire. Nous n'avons plus de rassemblement dans l'Église simplement pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour ne pas donner la chance au virus de se multiplier, pour contenir ce virus. Mais cela ne nous empêche pas, ce n'est pas un congé spirituel. Nous ne pouvons pas rester les longueurs de journée devant l'écran en disant « c'est de cette façon que nous sauvons le monde ». Les gens qui sont là devant l'écran et qui disent « Non, moi je ne bouge pas, je suis juste devant l'écran pour sauver les gens. Je ne veux pas sortir comme on nous a demandé pour sauver les gens. » Imaginez quel drame. Dieu a besoin des intercesseurs plus que jamais en cette période. Dieu veut des gens qui sont capables de porter cette situation comme un fardeau. Non pas pour vouloir le mal du monde, non pas pour vouloir la... Non, ils portent comme un fardeau pour demander à Dieu « Peux-tu arrêter ta fureur ? Oh Seigneur, peux-tu contenir ta fureur et donner la chance, donner une grâce à ce monde ?» Porter cela comme un fardeau. Moïse a porté cela comme un fardeau. On voit Jésus a porté cela comme un fardeau. Il a donné sa vie sur la croix parce qu'il voulait. Ce n'était pas pour lui. Lui était juste, exactement comme Moïse qui était en train de prier. Il n'était pas là avec le peuple. Jésus n'avait pas péché. Mais il a porté le poids, la condamnation de l'humanité comme un fardeau. C'est pour cela qu'il est venu dans notre monde, qu'il a souffert, qu'il est mort sur la croix. Parce qu'il a porté la condamnation du monde comme un fardeau. Notre monde a besoin d'une nouvelle génération de Moïse, des gens capables de porter le mal du monde comme un fardeau, dans une attitude d'intercession. Les gens qui ne se laissent pas distraire par la télévision, qui ne se laissent pas distraire par la peur, à force de regarder les nouvelles sur le coronavirus, qu'est-ce que ça fait en nous? Ça affecte notre psychologie et ça alimente une culture de la peur. Et nous avons peur, et nous avons peur, et nous développons la peur, et on développe la peur. Et avec la peur, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Dieu veut en ce temps ici des gens qui s'élèvent dans la foi, des gens qui s'élèvent dans l'intercession pour intervenir, pour amener la main de Dieu à intervenir. Où sont-ils ces gens-là? Toi qui m'écoutes en ce moment, peux-tu venir te joindre à nous pour que nous puissions devenir cette armée des intercesseurs, cette armée d'intercesseurs qui porte ce mal, ce fléau comme un fardeau pour le salut de l'humanité. Alors moi je prie pour vous, je continue à prier pour la communauté paroissiale, je continue à prier pour toutes ces personnes qui restent branchées à écouter le message que nous livrons jour après jour. Nous allons continuer à livrer le message, nous allons continuer à vous nourrir pour que la parole de Dieu vienne jusqu'à vous, pour que vous ne soyez pas distraits en cette période où le Seigneur dit « il tarde à venir ». Non pas parce qu'il ne peut pas revenir, mais il tarde pour nous donner la chance de nous convertir, la chance de demander pardon, la chance d'invoquer la miséricorde de Dieu. Le mal a tellement envahi le monde, nous avons besoin d'invoquer la miséricorde de Dieu. Nous avons plus que jamais besoin d'intercesseurs pour que les gens puissent accueillir Jésus et qu'ils ne puissent pas le refuter comme il est question dans l'évangile aujourd'hui, les gens ne voulaient pas Jésus. Ils ne voulaient pas de Jésus. Ils ne voulaient pas accueillir sa parole. Ils ne voulaient pas écouter sa parole. Ils scrutaient les Écritures, mais ils n'étaient pas capables d'accueillir la parole qui venait du Fils de Dieu lui-même. Alors que le Seigneur vous visite, que l'Esprit du Seigneur repose sur vous, que l'Esprit du Seigneur vous donne l'intelligence de la parole pour que vous ne soyez pas éloignés de cette parole en ce temps de crise. Amen.